Une saison en théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous. Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées, l'une vers Dieu, l'autre vers Satan. L'invocation à Dieu ou spiritualité est un désir de monter en grade, celle de Satan ou animalité est une joie de descendre. Voici ce qu'écrivait Charles Baudelaire avec qui nous ouvrons cette saison au théâtre qui va se faire une joie de descendre en invoquant non pas Satan mais l'animalité de l'acteur. L'acteur animal, c'est un concept dont le théâtre est non seulement familier mais gourmand. De Lee Strasberg, le fondateur de l'Actor Studio, à Valère Novarina, l'auteur du Discours aux animaux, la dimension animale du comédien nourrit la théorie et alimente les pratiques. Laissons donc parler le fauve. Nous ouvrons aujourd'hui le chapitre animalité d'une saison au théâtre, encyclopédie en mouvement d'un art qui est, vous vous en doutez, loin d'être bête. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue.
Afghanisches Gras. Ein Plätzchen für mein Schätzchen.
Bonsoir, Xavier Gallet.
Bonsoir.
Vous êtes comédien, actuellement en scène au théâtre du Lucernaire à Paris dans Guérisseur, une pièce de Brian Friel que propose Benoît Lavigne jusqu'au 14 avril. Et comme vous êtes hyperactif, on peut vous voir aussi à partir du 3 avril et jusqu'au 12 mai dans un autre théâtre parisien, Les Déchargeurs. Là, ça sera dans Providence, texte de Nel Labute, qu'adapte et met en scène Pierre Laville. Si c'est avec vous que j'ai souhaité parler de l'animalité de l'acteur, c'est parce que cette qualité, ce don ou cette prédisposition, vous l'avez littéralement en vous, Xavier Gallet. Votre corps sur un plateau de théâtre est un spectacle fascinant parce que organique. Sa face ou votre façon de parler est tout aussi troublante. Elle a même quelque chose d'assez inaliénable. Vous voir en scène, Xavier Gallet, c'est voir au fond sa raison totalement mise en déroute. Parce qu'avec vous, on fait face à ce que Freud appelait l'inquiétante étrangeté. L'animalité d'un acteur ou d'une actrice, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, c'est une mise au travail en tout cas. Je pense que si ça passe par l'abandon, par ce qu'on pourrait appeler l'instinct ou je ne sais quoi, cet instinct-là, il peut se révéler, selon moi, que à travers une grille de travail.
Est-ce que vous l'identifiez chez vos camarades acteurs et actrices, cette part d'animalité ? Est-ce que des fois, vous voyez des comédiens et vous dites « Ah !»
Carrément.
Là, il y a une bête qui sommeille.
Bien sûr. Ouais. J'ai été très jeune inspiré par Denis Lavant. J'ai ensuite eu la chance de travailler avec des Laurent Poitrenaud, Marie-Sophie Ferdan, chez qui j'ai pu voir, expérimenter, partager cette part d'animalité, c'est-à-dire ce combat. Pour moi, l'animalité chez un acteur, c'est une histoire de combat. C'est un peu Mr. Jekyll qui doit sortir de Mr. Hyde.
Donc Baudelaire a raison, c'est un combat avec la part diabolique qu'on a en soi, c'est une descente vers Satan ?
C'est une acceptation de Satan, mais un combat avec Dieu, peut-être. Je dirais que c'est en tout cas, pour moi en tout cas, c'est la conscience de vouloir revenir à l'origine de mon désir d'être acteur, c'est-à-dire à l'enfance, ou alors à l'origine de l'espèce humaine, c'est-à-dire à l'animalité. Pour moi, l'animalité de l'espèce, le rapport que l'humain a avec l'animal, c'est un peu celui que l'adulte civilisé pourrait avoir avec son enfance.
Et l'enfant, pour vous, est au fond le gardien du temple. C'est dans l'enfance qu'on peut aller puiser ce qu'on a de plus, j'allais dire naturel, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas de plus vrai peut-être.
Oui, je dirais en tout cas de plus brut, de plus naïf, comme en art pictural, et bien peut-être même de plus révolté.
L'animalité, c'est une présence du comédien, alors en travail, vous êtes en train de le dire, mais sans doute aussi une présence du comédien. Est-ce qu'elle suppose d'avoir un rapport particulier à l'espace dans lequel on se trouve et au public qui vous fait face, ainsi qu'aux partenaires qui vous accompagnent sur une scène, Xavier Gallet ?
Oui, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un rapport, le rapport d'un corps à un milieu, effectivement, à un environnement. Je pense qu'il y a une ouverture au sensible et au sens. Et le sens réagit au partenaire, effectivement, au spectateur et à l'air qui nous entoure. C'est accepter que notre corps, que notre émotion d'acteur puisse être traversée et puisse résonner avec l'environnement. Et donc, effectivement, là, le spectateur... le partenaire, le texte même, viennent perturber le cadre qu'on aurait pu construire. Et c'est à cet endroit-là que l'accident et l'animal peut s'exprimer dans une présence qui n'est pas pensée à l'avance.
Mais quand vous entrez en scène, quand vous montez sur le plateau théâtre, comme par exemple dans Guérisseur, où vous êtes tout seul, puisque le spectacle est découpé en quatre temps et c'est trois monologues, puis vous revenez à la fin de la représentation. Xavier Gallais, est-ce que votre façon d'entrer en scène est une, au fond, prise d'assaut du plateau ? Et en ce sens, est-ce que vous êtes comme un animal qui, voilà, aborde un territoire et doit le faire sien dans les cinq premières secondes où il arrive ?
Ah oui, c'est vrai, j'ai pas envisagé la chose cette fois-ci dans ce sens-là, mais effectivement, je pense qu'il y a quelque chose maintenant d'acquis chez moi, que les choses se jouent assez vite dans le match, dans la rencontre qui va se faire avec le public, même si cette rencontre, cette histoire qu'on écrit pendant le spectacle entre vous et l'acteur, entre le spectateur et l'acteur, va certainement passer par une multitude de rapports, justement, répulsion, attirance. Je pense que beaucoup de choses se jouent dès le départ. Je suis jury à nombre de concours pour les jeunes acteurs, et c'est vrai que dans les 30 premières secondes, on sent en tant que jury, donc en tant que spectateur, s'il y a un frisson, s'il y a une ouverture possible, une histoire possible à écrire entre la personne qui est sur le plateau et le spectateur. Donc, alors après, comment ça se transcrit? Comment on travaille cette chose-là? C'est un peu complexe, peut-être, là.
On est là pour en parler. On est là pour en parler. Xavier Gallais. Bien pour ça qu'on vous a demandé de venir. C'est avec vous qu'on va faire cette dissection-là de l'acteur.
Alors, pour essayer d'être assez clair, rapide, je dirais que l'animalité, moi, j'essaie de la mettre en parallèle avec la marginalité. J'ai eu souvent à jouer des animaux, des ce qu'on appelle des fous de théâtre ou des poètes, des visionnaires, des marginaux en fait. Et donc, pour pouvoir créer cette présence marginale, il me faut comprendre le milieu dans lequel je vais devoir exister en marche. Et si je parle d'un milieu notamment esthétique au théâtre, donc il me faut comprendre l'esthétique dans laquelle je suis noyé pour pouvoir ensuite travailler à casser cette esthétique-là, ce cadre-là, ce milieu-là, et du coup ce qui s'exprime à l'extérieur de ce cadre est une forme d'animalité. Donc si par exemple l'espace est tout petit entre le spectateur et l'acteur, je vais essayer de réduire encore plus cet espace, ou au contraire, d'essayer de très vite prendre tout cet espace pour montrer à quel point ce type-là devrait avoir plus d'espace pour pouvoir s'exprimer. Et donc, notamment là, l'espace
dans le guérisseur,
notamment, c'est pour ça que j'explose le peu d'éléments de décor qu'il y a dès le départ, comme un animal en cage, on pourrait dire, en essayant de rendre compte au spectateur que ce qui va devoir être exprimé chez ce personnage ne pourra pas être exprimé que par moi, parce que l'espace est trop petit, sa cage thoracique est trop petite, l'espace scénique est trop petit. Et c'est là, on est au cœur de l'exercice qui est demandé par Brian Friel, je crois, à l'acteur et au spectateur, c'est que c'est le spectateur qui va être un des artistes principaux de ce spectacle-là. Et donc, l'expression du personnage, elle va devoir se faire par l'imaginaire du spectateur aussi.
Et c'est ce qui se passe. Je vous propose d'écouter Xavier Gallais, la voix de Valère Novarina. Il est l'auteur, vous le savez, d'un spectacle qui a fait fureur lorsqu'il a été créé par André Marcon. C'est le discours aux animaux. Valère Novarina évoque le travail d'André Marcon sur ce texte.
Lorsqu'André Marcon travaillait le discours aux animaux, dès les premiers pas qu'il faisait sur le plateau, je savais si la représentation allait être forte ou non, parce qu'il fallait que s'avance sur le plateau un perdant. Un acteur plus bête que le spectateur. pour pas que ce soit du théâtre, comment dire, intellectuel, voilà, avant-garde. C'est pas du tout ça. Il y a une sorte d'idiotie de l'acteur, d'état d'idiotie. Enfin, ce qui, bien entendu, ça veut pas dire que l'acteur n'est pas intelligent, ne lit pas, ne travaille pas sans arrêt, etc. Mais il y a une sorte d'état animal. C'est un animal qui parle. C'est un animal et tout doit descendre dans ses jambes, dans ses pieds, dans son accroche au sol. Tout doit être somatisé profondément. Et les très beaux acteurs et actrices qu'il y a dans le vrai sang, ils somatisent de plus en plus. Le texte devient de plus en plus... Il n'y a pas d'autre solution que la voie du concret, que la voie la voie matérielle et respirer.
Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer, vous Xavier Gallet, qui est en première ligne sur le plateau de théâtre, ce qu'il veut dire Valère Novarina quand il dit « il faut que s'avance un acteur qui soit plus bête que le public ». Peut-être qu'il dit « bête » au sens d'animal, justement. Enfin, c'est ce qu'il a l'air d'expliquer par la suite. Ça veut dire quoi, un acteur plus bête que le public, selon vous ?
Oui, selon moi, j'ai l'impression que le travail fait sur le texte, fait sur l'espace, il est antérieur à la représentation. Et si le moment de la représentation continue à être un endroit de la pensée, un endroit de la réflexion et de la volonté de faire entendre cette réflexion, je pense qu'on rate l'expérience commune qu'est une représentation. Bien sûr, on a de l'avance sur le public et grâce aux répétitions, au moment où on arrive en scène, on doit avoir tellement confiance en ce travail effectué qu'on ne doit plus pouvoir y penser et on doit être à nouveau à nu, à nouveau naïf, frais, comme un enfant face à l'histoire qui va se raconter. Et en fait, ne pas penser que nous, on détient toutes les clés de ce qui va se raconter. Ce qui va se raconter, ça sera différent de ce qui s'est raconté la veille puisque en face, on a des gens différents et que nous-mêmes, on est différents de la veille. Donc, on est à nu et l'histoire, elle est la rencontre, elle est à créer. Donc, moi, je vois ça un peu comme ça.
Mais au fond, lorsque Novarina parle de l'acteur comme l'animal qui parle, est-ce qu'il ne donne pas une définition très synthétique, très condensée de ce que c'est le comédien ? Un animal doté de la parole, doué de la parole. Donc, la part physique, la part organique, la part verbale, et le tout ramassé dans cette phrase, un animal qui parle. Qu'est-ce que vous en pensez, Xavier Gallet ?
Moi, je l'entends complètement. Et j'accepte que d'autres ne soient pas dans cette définition-là. Il y a des acteurs plus civilisés. En France, on a une tradition du jeu qui est le jeu en France doit être centré sur une pensée organisée, articulée, avec une diction absolument parfaite qui fait entendre la structure de la pensée et pas de corps. Ça, c'est traditionnellement, vous voyez. C'est intéressant parce que tous les gens comme moi et même avant moi, à partir des années 60, qui ont fait une formation théâtrale, d'un seul coup, ont vu cette tradition s'ébranler avec justement tout l'apport du corps sur un plateau et de l'abandon. L'abandon de la maîtrise, le lâcher-prise, comme on dirait. Et effectivement, aujourd'hui, moi, j'entends tout à fait mon métier comme étant un animal qui parle, un animal... Oui, un animal qui parle, pourquoi pas.
France Culture.
Une saison au théâtre.
Joël Gaillot.
Je vous propose, Xavier Gallet, de rejoindre maintenant Claude Lévi-Strauss, l'anthropologue, raconte de quelle manière, dans cette archive, l'humain et l'animal n'ont pas toujours fait bande à part.
L'homme que nous avons vu tout à l'heure et qui était coiffé d'une sorte de masque d'oiseau représentait en cette occasion une grande divinité du panthéon Haïda, qui est le corbeau.
Claude Lévi-Strauss.
Le corbeau.
1985.
Appartient à un temps, le temps du mythe, où les humains et les animaux n'étaient pas des espèces ou des familles réellement distinctes et pouvaient à volonté assumer une apparence humaine ou leur apparence animale. Ce que les masques de cette région, et particulièrement celui-là si je l'ai bien regardé, expriment merveilleusement, puisque ce sont des masques à voler. Quand les deux volets sont refermés, et quelquefois il y a 3, 4, 5, 6 volets, quand les volets sont refermés, nous apercevons l'appartenance oiseau, et quand ils s'ouvrent, nous voyons par derrière le visage humain de cette divinité qui est à la fois le dernier des insoumis, le dernier représentant du monde du mythe où tout était possible. Et puis, comme les choses sont en train de changer, comme grâce à lui, les hommes font leur apparition sur la Terre, qui est le premier des législateurs et à partir duquel il ne sera plus possible de faire n'importe quoi.
Voilà, Claude Lévi-Strauss, Xavier Gallet, explique de quelle manière dans le mythe, effectivement, il n'y avait pas de séparation entre l'homme et l'animal et sans doute entre la nature et la culture. Et je repense à ce que vous disiez en ouverture de l'émission sur le fait que c'était une façon pour vous d'aller puiser dans l'enfance ou d'aller vous réconcilier ou rejoindre l'enfance, le travail sur l'animalité. On dit qu'au fond, être un acteur animal ou en tout cas aller chercher l'animalité en soi, c'est rejoindre une sorte de vérité première, peut-être même primitive, ancestrale, si on se réfère à ce que dit Lévi-Strauss.
Ah oui, j'entends même que là, il parle de transcendance. C'est comment, par ce retour à l'origine, donc à l'enfance par exemple, on peut atteindre une certaine forme de transcendance et je dirais de révolte contre le monde légiféré, de la législation, l'homme qui construit, ben l'animal à côté de ça peut se moquer de la construction, soit errer autour de la construction, soit la détruire. Et c'est le moyen de dépasser en fait nos projets qui nous semblent très très grands. Évidemment, c'est ce que nous sommes en train de construire qui domine l'avenir. Or, l'animal nous rappelle que peut-être qu'il y a quelque chose de plus grand dans le creux, en creux.
Est-ce que ça serait la part transgressive de l'acteur, la dimension animale, celle qui le pousse à faire le pas de plus?
Oui. Je pense, pour moi, c'est la part de Satan dans un projet
théâtral. Baudelaire est encore là.
Ouais. C'est-à-dire que le metteur en scène décide d'un cadre et l'acteur doit rendre compte de ce cadre-là. Il fait partie des outils qui permettent de construire ce cadre. Et ensuite, pendant la représentation, l'acteur utilise sa part de révolte pour faire le pas de plus qui va venir exploser le cadre et qui va rendre, c'est l'acteur révolté, qui va transcender pour le spectateur le projet théâtral qui reste que humain s'il n'y a pas la tentative de le détruire.
Vous qui avez joué les tragédies grecques, je crois que vous êtes passé par
les trois, en fait, les trois.
Vous êtes passé par Sophocle, Euripide et donc
Eschyle.
Est-ce que vous avez eu le sentiment, en traversant certaines de ces tragédies, de côtoyer au fond ce qu'il en est de la sauvagerie, puisqu'on sait bien que l'humanité, elle se bâtit dans les tragédies et plutôt à la fin des tragédies qu'au début, et que on pouvait dans les tragédies s'entretuer, s'égorger, manger ses enfants, assassiner père et mère, et je passe sur pire que ça, et que finalement être passé par là vous a nourri pour la suite, Xavier Gallet.
C'est fort possible que...
Parce que quand je dis sauvagerie, je pense évidemment à animalité.
Bien sûr. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de traverser ces auteurs assez jeunes, ainsi que Nietzsche et sa naissance de la tragédie, assez jeunes. Et très probablement, ça a dû orienter mon rapport au plateau depuis. Je l'ai vraiment vécu comme un combat entre... C'est quoi? C'est Apollon et Dionysos. Donc vraiment entre, on va dire, le dieu de la beauté et celui de l'ivresse, de la sauvagerie ou je ne sais quoi. Et j'ai compris que l'un ne pouvait pas aller sans l'autre et que vraiment c'est une histoire de tension par rapport à la sauvagerie primitive des textes anciens. J'ai réalisé qu'il était assez fort et peut-être fondateur de travailler sur des couleurs franches, comme l'animal peut-être peut être attiré par, peut être guidé par un seul instinct à la fois, brut et vital, absolu. Et ben peut-être que l'acteur doit, si en plus, d'autant plus s'il veut être paradoxal et ambigu, travailler sur des couleurs franches qui viennent s'opposer les unes après les autres plutôt que sur une civilité un peu molle ou complexe, vous voyez, où il y aurait plusieurs couleurs à la fois. Non, c'est une couleur franche l'une après l'autre qui forge en fait notre humanité.
Je voudrais vous faire écouter absolument, Xavier Gallet, le témoignage d'Alain Froment. C'est un anthropobiologiste qui s'inspire des travaux de Darwin sur l'évolution de l'espèce humaine. Et il explique de quelle manière l'hybridation entre l'humain et l'animal, parce que nous procédons de l'animal, cette hybridation, elle est toujours en cours dans notre corps. Écoutons-le.
Darwin s'était intéressé notamment à ce qu'on appelle les organes vestigiaux, qui sont justement un peu des preuves de l'évolution, parce que ce sont des choses qui servent plus à rien. Pourquoi on les a si elles ne servent à rien? Simplement parce que c'est un héritage. Lui s'était intéressé aux gens qui sont encore capables, vous voyez, de bouger les oreilles. Il y a encore des muscles, donc c'est pas donné à tout le monde de bouger ses oreilles. Mmh. Mais nous, ça nous sert à rien en tant qu'humain. Par contre, chez l'animal, ça peut être important. Alors il y a comme ça un certain nombre de vestiges qui sont autant de preuves de l'évolution pour qui en douterait. Il y a eu une liste qui allait jusqu'à presque 200, mais en fait on en a éliminé beaucoup parce qu'on s'est aperçu plus tard, après Darwin et ses suiveurs, que c'était des organes importants. Par exemple, l'appendice, on a dit longtemps que ça servait à rien, que ça nous tuait même en cas de crise. En fait, on sait maintenant que c'est un organe de défense, un organe plein de cellules lymphoïdes, donc en fait c'est très important. Et finalement, il n'y a plus beaucoup d'organes vestigiaux qui soient vraiment des vestiges. Il y en a un qui est assez amusant, c'est le petit muscle qui est qu'on appelle le muscle horripilateur. Il est à la base de chaque poil. Bon, nous on a des poils en fait autant que les chimpanzés, simplement ils sont plus fins et on a gardé ce petit muscle. D'ailleurs, qu'on voit quand on a la chair de poule, hein, c'est ça. Mais nous, ça nous sert pas à grand chose à part manifester quelques émotions. Oui. Donc, c'est quand même encore un petit bénéfice. Mais vous voyez, chez le chat, par exemple, ou chez le chimpanzé, ça sert à hérisser le poil et à se faire paraître plus menaçant.
Vous trouvez pas que ça ouvre des possibles, ce que raconte Alain Froment? C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons sur nous les traces des animaux que nous avons été, Xavier Gallet. Et au fond, ce que ça dit, c'est que l'acteur est celui qui peut faire apparaître ce qui est déjà là. Il n'a pas à le construire, à le fabriquer, à l'inventer, c'est là.
Oui, c'est vertigineux, c'est bien, ça va me faire réfléchir pendant les années à venir. Ça va dans le sens de ce que j'expérimente en ce moment avec mes élèves au Conservatoire National.
Qu'est-ce que vous leur faites faire
hein? Beaucoup de choses, mais notamment à accepter de se laisser mettre en jeu par l'autre. Et à essayer d'activer l'autre. Si chacun porte en soi les animaux sur lesquels l'espèce humaine s'est construite, ça veut dire qu'en fait, parce que l'acteur est fait de l'art vivant, du coup l'humain est face à un humain, l'humain accepte d'être dans le noir et de regarder un autre humain dans la lumière, il a la responsabilité de se laisser lire. De laisser lire les animaux qu'il a sur lui, qu'il a en lui, pour rappeler d'où on vient. Et c'est le seul moyen, c'est ce que je pars de ce principe-là. Si vous voulez inventer l'art, le théâtre de demain, si vous voulez inventer quelque chose, si vous voulez inventer du coup l'homme que nous allons être dans quelques années, vous avez tout intérêt à comprendre ce qui s'est fait avant vous pour pas le répéter bêtement, ou alors voulant être bête, comme dirait Novarina, de manière consciente. Et donc, peut-être que, en acceptant qu'ils portent en eux, sur eux, les stigmates des animaux que nous avons été, c'est encore une histoire de lâcher prise, d'abandon, de vouloir donner les signes.
Lee Strasberg, le fondateur de l'Actor Studio, il avait mis au point un exercice qu'il appelait l'exercice d'incorporation animale. Exercice qui consistait, pour l'acteur, à laisser entrer l'animal en lui, à faire corps avec l'animal, à unir son énergie avec celle d'un animal. J'ai l'impression qu'on est bien au-delà simplement du déplacement sur le plateau, de la souplesse ou du comportement et de la posture, du geste, du mouvement. On est dans quelque chose de très intérieur qui est effectivement cette quête d'une énergie au fond, hybridé.
Oui. Ah oui, sinon c'est... l'imitation, c'est un moyen de commencer, on va dire. Mais...
Vous visualisez en animal, oui. Vous, parfois, sur certains spectacles, avant d'entrer
bien sûr.
En scène.
Oui, ça fait partie des étapes de travail que je fais. Oui.
Quels animaux, par exemple?
Ça dépend. Ça dépend des personnages, mais je suis passé par pas mal d'animaux. Les gorilles, les lions, les serpents, les girafes, même une fois. J'apprends, j'ai depuis tout jeune, mais bon, moi je viens de la terre, alors j'adorais mettre la main dans la terre, donc les vers de terre, j'adorais. J'ai très vite compris que une de ma légitimité à monter sur un plateau, c'était ça, c'était de rappeler à l'espèce humaine, de lui rappeler son humanité, donc son animalité, parce que j'ai l'impression que l'humain court vers l'abandon de son humanité. Et alors, si elle abandonne son humanité, alors ça veut dire qu'elle a encore plus abandonné son animalité qui est antérieure, voyez. Et donc ma responsabilité, elle est là. Et mais effectivement, j'ai l'impression que ce qui est plus fort, ce qui est plus vital pour l'humain qui vient voir, l'individu humain qui vient voir un spectacle, c'est pas simplement de voir qu'on ressemble physiquement, qu'on peut avoir la souplesse d'un animal, qu'on peut avoir sa force, mais vraiment qu'on peut, qu'on a sa nécessité de vivre dans un milieu. C'est-à-dire que pour survivre, il faut comprendre le milieu dans lequel on vit et il faut apprendre de ce milieu pour pouvoir trouver sa nourriture. Ce que l'humain peut avoir tendance à oublier en croyant qu'il peut maîtriser le milieu selon ses propres désirs. Et je pense que c'est très très beau d'accepter qu'on peut grandir, qu'on puisse grandir simplement à travers le regard des autres.
Mais quand vous voyez girafe, qu'est-ce qui dans la girafe est ce qui vous attire ? C'est quoi ? C'est la hauteur ou la démarche extrêmement gracieuse de la girafe ? L'altitude ? L'élévation ? Qu'est-ce que c'est, Xavier Gallet ? Parce que le serpent, on voit bien que c'est bon, ce qui va être de l'ordre du reptile, forcément, donc d'un rapport au sol très très sinueux,
sinueux
pour le dire comme ça. Mais la girafe, sensuelle. Par exemple,
La girafe, c'est tout ça. Et aussi sa manière, sa contrainte de voir le monde d'en haut. Et en fait, de se rendre compte que elle est obligée, pour parler aux autres, de se baisser.
Et sur Guérisseur, vous avez pensé à quoi ? Donc le spectacle qui se joue actuellement au Théâtre du Lucernaire.
Le guérisseur, lui, je parle pas, je pense pas toujours à des animaux,
ouais.
Mais le guérisseur.
Je vous dirai à quoi j'ai pensé moi.
D'accord. Le guérisseur, c'est pour moi, c'est un personnage qui ondule,
ouais.
qui passe, qui est complètement déséquilibré en permanence. J'ai pas pensé à un animal, je dois vous l'avouer. J'ai pas eu le temps là de travailler là-dessus. Mais j'ai plutôt travaillé dans mon imaginaire sur un. En fait, c'est un peu différent parce que je travaille plus sur le personnage et sur l'animal, mais plutôt sur les traces du personnage. C'est-à-dire que il y a un personnage qui a existé et moi, en tant qu'acteur, je marche dans les traces de ce personnage. Donc, par moment, vous voyez l'acteur que je suis et par moment, on voit des bribes de personnages. Donc, c'est une espèce de dédoublement qui nous amène sur une autre thématique que celle de l'animalité. Vous avez vu quoi ?
Moi, j'ai vu quelque chose comme Laurent Houtan.
Oui, voilà, c'est ça, oui, je pense, je comprends.
C'est-à-dire un déplacement avec deux pieds parfaitement ancrés dans le sol, mais quand même des pieds qui sont dans une sorte de rebond.
Mm-hmm.
Donc, ils sont à la fois scotchés au sol, mais immédiatement portés vers ailleurs. C'est pas juste marcher, c'est un peu plus que marcher. C'est faire du sol l'endroit d'une sorte de trampoline. Avec quelque chose, évidemment, de très inquiétant, parce que le personnage est forcément...
Oui.
On l'a pas dit, mais c'est un charlatan on pense que c'est un charlatan qui guérit par imposition des mains, et c'est un personnage très trouble et assez flippant, je dois dire.
Il a trop de force.
Oui.
Et j'ai l'impression que ça va très bien, Laurent Houtan. Il a trop de force et il écrase les autres. Je pense qu'il a autant la capacité de guérir que de faire du mal, et il souffre de ça.
Merci à vous, mille fois, Xavier Gallet, de nous avoir rejoints au micro d'une saison au théâtre. On se quitte en rappelant aux auditeurs qu'ils peuvent vous voir en scène au Théâtre du Lucernaire à Paris jusqu'au 14 avril dans Guérisseur, texte de Brian Friel, mis en scène par Benoît Lavigne. Et on pourra vous voir également au Théâtre des Déchargeurs à Paris, également dans Providence, un texte de Nel Labutte, adapté et mis en scène par Pierre Laville. Ça sera du 3 avril au 12 mai. Vous pouvez et même vous devriez podcaster cette émission à la page d'une saison au théâtre sur le site de France Culture. Inès Duperron, Pierrick Monsigny, Audrey Guélil, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous saluent, restez à l'écoute. C'est le moment de retrouver De Cause à Effet, le magazine d'Aurélie Luneau. Bon dimanche à tous.
Chantait monter dans l'atmosphère. Un coup d'éclat, d'éclair, un coup de tonnerre. Droite, gauche, droite.
traverser les déserts, les glaciers de leur terre.